RCF.
Il est parfois question de la pensée de l'Église, publiée notamment à travers des encycliques. Et parmi ces grandes réflexions que mène l'institution depuis des siècles, il existe la doctrine sociale de l'Église. Ce sont des discours élaborés dans le domaine politique, économique et social, mais pas que des discours. Et en ces temps agités, rien de tel que de les relire, non pas pour y trouver une indication de vote, mais plutôt pour y chercher soi-même où se trouvent les grands enjeux, quels projets nous semblent vitaux. L'Église fait-elle de la politique? Pas vraiment, en tout cas, elle apporte une réflexion stimulante que vous avez approfondie. Frère Jacques-Benoît Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, vous êtes enseignant de théologie morale. C'est une matière qui parle de la façon dont l'Église est traversée justement par des questions contemporaines. Et vous dispensez ses cours au sein de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes l'auteur du livre « Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger » aux éditions du CERF. Et puis aussi d'un livre qui s'appelle « Découvrez la doctrine sociale de l'Église ». Avant d'aller voter, c'est également aux éditions du CERF. Et ça tombe bien parce que dans le tourbillon des médias et des débats médiatiques, c'est intéressant de relire comment l'Église a traversé justement les questions de son temps. Frère Jacques-Benoît Raucher, le terme « doctrine sociale de l'Église », ça peut parfois un peu effrayer. Et pourtant, ces textes s'adressent vraiment à tous les croyants. Ils sont à la fois très concrets et complètement inspirés de l'Évangile.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il ne faut pas peut-être se laisser impressionner par le terme « doctrine sociale de l'Église », mais ça dit quand même quelque chose de sérieux. Ça veut dire que le chrétien qui prend sa foi au sérieux, il ne peut pas se désintéresser des problèmes du monde. Il peut même s'appuyer sur une pensée qui est une pensée de très très long cours qui a été menée par l'Église, alors les papes depuis la fin du XIXe siècle, mais évidemment la pensée biblique, la pensée des grands auteurs chrétiens depuis des siècles, voire des millénaires.
Alors, doctrine, ça donne le sentiment que c'est quelque chose de ficelé, de figé, qui finalement traverse le temps, mais peut-être sans véritablement prendre en compte les grands questionnements, et puis les troubles, et les agitations, et l'engagement aussi des chrétiens dans le monde. Est-ce que ce nom de doctrine reflète véritablement ce texte?
En fait, le terme de doctrine, il a été pas mal débattu, mais il a été repris par Jean-Paul II en 1987, quand il a redéfini cette doctrine sociale de l'Église. Et alors, il faudrait pas l'entendre comme quelque chose de figé, hein, il y a bien des propos dedans qui dépendent des circonstances, qui dépendent aussi de l'espace culturel dans lequel on est. On ne peut pas parler du travail de la même manière au Burundi aujourd'hui et en France il y a 2000 ans. Voilà, ce n'est pas la même chose, hein, forcément. Mais il y a quelque chose qui n'est pas figé et en même temps, il y a la possibilité de s'appuyer sur une réflexion longue. Et en ça, je trouve qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est quelque chose de négatif d'avoir une doctrine sur le long cours. Je crois que dans les temps troublés parfois où nous sommes, c'est bon aussi de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de personnes qui ont réfléchi sur ces questions à travers les siècles.
Est-ce que vous diriez que c'est daté parce que, en fait, il y a eu des grandes étapes dans les derniers siècles et ces étapes ont permis de formuler cette pensée ou en tout cas ont fait naître ces réflexions. Est-ce que vous diriez que c'est justement un peu daté parce que si on reprend, on va dire, cette date que vous donnez pour le début, donc 15 mai 1891, en admettant évidemment qu'il y a toute la tradition précédente, celle des premiers apôtres et puis aussi celle de la Bible, mais ce 15 mai 1891, il vient marquer un moment précis. Est-ce que pour autant, ce qui se passe à cette époque-là et qui donne à Léon XIII l'envie d'écrire et de réagir, est-ce que c'est encore valable ou est-ce que ça correspond à une époque qui est déjà passée quelque part?
Alors, le 15 mai 1891, c'est la publication de Rerum Novarum, la première grande encyclique sociale d'un pape, Léon XIII, comme vous l'avez rappelé. Et il l'écrit en particulier dans ce climat très particulier de révolution industrielle, pour défendre, entre autres choses, la condition des ouvriers. Alors évidemment, c'est un climat qui est marqué par le contexte de la fin du XIXe siècle, mais défendre la dignité de la personne qui travaille, ça c'est une préoccupation de l'Église à travers tous les siècles et qui est encore très valable aujourd'hui. Donc oui, il y a des parties qui sont datées, mais l'intuition fondamentale, elle traverse les siècles.
Alors justement, on revient un peu sur ce qui a pu nourrir la réflexion. Il y a donc cette date que vous donnez, 1891, trois révolutions démocratiques, industrielles, communistes. Quelle va être l'audace de l'Église face aux politiques ?
Alors, au moment de la fondation de cette doctrine sociale 1891, je trouve qu'il y a déjà une première audace pour l'époque. C'est que le pape lance cette doctrine parce que des laïcs qui sont engagés dans le monde industriel lui disent « Le monde a tellement changé, l'Église doit prendre acte de ces changements. » Et je crois que c'est déjà une première audace si on se remet dans le contexte du catholicisme de la fin du 19e siècle, peut-être assez marqué par une forme de hiérarchie. Il y a une vraie écoute de la compétence des laïcs sur ces questions-là. Et ça, je crois que c'est déjà une première audace de la doctrine sociale. Une autre audace, c'est de dire précisément, on a malgré tout quelque chose à proposer comme catholique, quelque chose qui n'est pas nécessairement une volonté de restauration d'un ordre chrétien, d'un ordre qui viendrait du Moyen-Âge, mais on a quelque chose à proposer pour inspirer le comportement des chrétiens, pour qu'ils jouent leur rôle dans un univers démocratique, sans nécessairement dire, on va vous donner clé en main des consignes de vote, où on va vous donner clé en main une constitution à appliquer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau.
Mais ça va être aussi un peu perturbant. Si on prend la question de la propriété privée, par exemple, elle arrive justement avec ce monde industriel de dire, est-ce que c'est bien ou pas bien de posséder? On doit tout donner, ça nous est dit dans les Actes des Apôtres, tout partager, le bien commun. Et puis en même temps, après tout, la propriété privée, c'est un espace aussi de liberté. Comment on peut articuler ça? Et est-ce que la doctrine sociale de l'Église tranche? Quelle voie elle trouve?
Alors, il y a des choses qu'elle tranche, et je pense qu'on y reviendra à travers bien des exemples. Et puis, il y a aussi des éléments où elle donne des critères de discernement. Et ça, je crois que c'est très important de ne pas se dire que quand on donne des critères de discernement et non pas du prêt-à-penser, on fait la moitié du travail, où on est un petit peu une espèce de doctrine tiède qui serait proposée par l'Église. Je crois que si elle donne des critères de discernement, c'est aussi parce qu'elle fait confiance dans les capacités de discernement des personnes à qui elle les donne, ces critères. Et je crois que c'est quelque chose qu'elle fait assez régulièrement, c'est de ne pas forcément trancher toutes les questions, mais de dire sur le plan politique, sur le plan économique, et économique même de façon très concrète, sur la façon dont je gère mes propriétés, comme vous venez de le rappeler, même si elles sont toutes petites, il y a quelque chose où j'ai la possibilité, dans la situation où je suis, de discerner qu'est-ce qui est le mieux pour moi.
Frère Jacques-Benoît Rocher, quel va être le lien aux textes, donc les textes de la Bible, les textes des premiers apôtres, les textes des premiers penseurs, on pourrait dire chrétiens? Quel va être ce lien établi au fil du temps entre les papes et leurs traditions?
Alors au tout début, c'est vrai que la doctrine sociale de l'Église, elle s'appuie plutôt sur une philosophie sociale, sur une philosophie sociale notamment issue du Moyen-Âge. Mais au fur et à mesure, les papes vont insister sur le fait que cette doctrine sociale, elle doit aussi beaucoup s'appuyer sur la conception que la Bible donne de l'homme. Et c'est vrai que dans la Bible, on a beaucoup de choses qui sont présentes sur le travail, y compris aussi sur l'accueil de l'étranger, même sur l'écologie. Voilà, donc c'est encore une fois pas des choses à appliquer aujourd'hui telles quelles, mais enfin qui peuvent nous inspirer.
Il y a beaucoup de choses, mais on pourrait vous rétorquer qu'on peut faire dire tout et son contraire à la Bible. On peut aussi lire l'Ancien Testament et puis trouver un peu autre chose dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on peut trouver une cohérence?
Justement, je crois qu'il faut essayer de la chercher, cette cohérence. Il ne faut pas se dire que la Bible va nous la donner clé en main. Moi, je suis assez mal à l'aise quand je vois des chrétiens qui me disent « qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je suis fidèle à la Bible ?» ou « qu'est-ce que la Bible dit sur ?» La Bible, elle dit plein de choses et parfois des choses contradictoires. Et si les gens qui ont rassemblé les textes bibliques, les croyants qui ont lu la Bible, se sont dit « au fond, on garde ces textes contradictoires devant les yeux », c'est parce qu'ils ont envie de dire « la Bible, c'est un lieu qui d'abord doit nous faire réfléchir ». Et je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur comme chrétien de ces contradictions qu'on trouve dans la Bible, mais il faut qu'on les accueille d'abord en se disant « mais qu'est-ce que ces textes-là ont à nous dire aujourd'hui ? Comment est-ce qu'ils nous invitent à réfléchir ? Comment ils sont une source d'inspiration, mais pas une espèce de décalque de comportement qu'on devrait appliquer clé en main ?»
Oui, vous le disiez, la Bible, c'est pas un programme politique.
Exactement.
Mais c'est tentant parce que c'est plus facile aussi.
Ah, ce serait beaucoup plus facile. Et moi, parfois, je me dis, ben, ce serait quand même beaucoup mieux si du ciel tombait le résultat ou bien ce que je devrais exactement faire dans mon isoloir quand je vais voter dimanche prochain. Oui. Donc là, il y a quelque chose. Non, c'est pas facile, mais je crois que ça fait partie de notre chemin et du sérieux au fond que Dieu a de la manière dont chaque être humain a se comporter. Il lui laisse une marge d'interprétation.
Alors, comment justement entrer dans cette doctrine sociale de l'Église pour tout croyant, ce sont des textes accessibles, il faut le redire. Et pour autant, ce sont des textes qui sont d'une immensité, à la fois dans leur réflexion, mais aussi dans la quantité de textes. Donc, comment entrer dans ces textes pour un chrétien ?
Je crois qu'on peut y rentrer d'abord en regardant différentes thématiques qui y sont abordées. Si je m'intéresse, par exemple, aux migrants, si je m'intéresse au travail, si je m'intéresse à l'écologie, si je m'intéresse peut-être aussi à l'économie, comment est-ce que je peux regarder qu'est-ce qui a été dit sur ces sujets? Et ça, je crois que c'est parfois des portes d'entrée qui sont plus abordables que d'essayer de faire le tour, on va dire, de cette doctrine d'un coup.
Oui, parce que si on la présente, on va peut-être utiliser les termes qu'on entend souvent autour de la doctrine sociale de l'Église, mais qui finalement peut-être parfois peuvent nous rebuter. Il y a à la fois des valeurs, des principes et des socles.
Il y a effectivement quatre grands principes autour desquels tout s'articule. C'est la dignité de l'homme d'abord, c'est-à-dire le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est la base fondamentale autour de laquelle tout doit graviter. Le bien commun, c'est-à-dire que quand j'agis, je dois me préoccuper de rechercher ce qui est bien pour moi, mais de rechercher aussi le bien de ceux et celles qui m'entourent. Et puis la solidarité qui rejaillit de ces deux dimensions-là, c'est-à-dire je ne peux pas me contenter de voir que des personnes vivent dans des situations de très grande précarité ou des situations où leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et enfin la subsidiarité, c'est-à-dire qu'au nom de l'aide que je dois apporter aux autres, je n'écrase pas non plus la capacité qu'ont les autres de pouvoir créer, de pouvoir être autonome. Et je crois que ces quatre grands principes, ces quatre éléments qui structurent la vie et l'action du chrétien.
Jacques-Benoît Rocher, vous êtes dominicain et parmi les thèmes de réflexion sur lesquels vous vous arrêtez, il y a celui de la guerre, plus précisément même celui de l'entrée en guerre. Quelles questions se posent à un chrétien justement lorsqu'il est confronté à une guerre sur son territoire ou sur celui d'un autre ? Est-ce qu'il y a une guerre juste, comme l'Église l'a longtemps dit aussi ?
Alors, c'est une question qui a été épineuse à travers les siècles et dès l'origine pour les chrétiens, parce que on se dit forcément, si on lit l'Évangile, le Christ nous dit « si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre ». On voit même au moment de son arrestation qu'il dit à Pierre « range l'épée au fourreau, Pierre ». Donc on aurait l'impression d'un Jésus radicalement non-violent. Et pourtant, les premiers chrétiens se sont dit « on ne peut pas proscrire par définition la violence parce qu'on ne vit pas dans un monde qui est pur et parfait ». Et donc, ils ont mis en place un certain nombre de critères, ou ils ont repris des philosophes païens un certain nombre de critères qui pouvaient permettre de penser notamment la guerre juste. Et ces critères, ils sont de deux grandes catégories. C'est qu'est-ce qui justifie une entrée en guerre et comment est-ce qu'on se comporte quand on est entré en guerre. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête le fait que les chrétiens aient voulu avoir pour définir la guerre juste ces deux éléments. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de viser une fin bonne, il s'agit aussi de choisir de bons moyens. Il ne s'agit pas simplement de dire « je fais la guerre pour des bonnes raisons et donc tous les coups sont permis », mais je fais la guerre pour des bonnes raisons et en plus je me comporte correctement en menant cette guerre.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre, voilà. Et ça, c'est les deux critères.
Alors, dans ces critères, vous le disiez, qu'est-ce qui justifie une entrée en guerre ? C'est quoi la réponse ?
Alors, c'est évidemment complexe. Il faudrait des heures et des heures pour en parler dans tous les détails. Mais déjà, c'est rétablir une injustice notoire qui aurait été commise. On ne fait pas la guerre, par exemple, pour se venger simplement d'une agression qui aurait été menée. On ne fait pas la guerre non plus sans possibilité réelle de penser atteindre un but qui sera plus favorable à la paix. Par exemple, on ne fait pas la guerre pour se dire de manière un peu suicide, voyez, en se disant j'ai aucune capacité à vaincre, mais je vais infliger des pertes énormes à mon ennemi pour simplement laver un honneur bafoué. Non, je fais la guerre en vue, en gros, de pouvoir rétablir la paix. Ça, c'est un critère important que saint Augustin fixe en disant « Il faut qu'on ait beaucoup discuté avant pour éviter la guerre, mais si c'est la seule solution pour arriver à la paix, à une paix durable, on peut admettre que la guerre existe. Mmh. Mais c'est toujours en vue de la paix. C'est jamais pour un déchaînement de violence. »
Alors vous nous avez parlé du Christ, mais si on remonte encore plus loin à l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous faites du Dieu guerrier, du Dieu qui encourage à la bataille, du Dieu qui soutient ceux qui vont justement dans d'autres terres ?
Alors ça, je crois que c'est déjà une question qui est plus fondamentale encore que cette question de la guerre, c'est comment est-ce qu'on lit la Bible ? Et notamment, comment est-ce qu'on lit dans l'Ancien Testament des textes qui peuvent nous déranger ? Il y a un critère qui est quand même absolu, c'est de toujours lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau et notamment à la lumière du comportement du Christ. Et c'est vrai que les problématiques, notamment de guerre et de conquête qui sont présentées dans l'Ancien Testament, un chrétien ne peut pas les reprendre telles quelles, parce que le Christ apporte quand même quelque chose de nouveau à cet égard.
Vous le disiez, il y a cette première raison qu'on évoquait. Donc, est-ce que c'est un problème réellement grave qu'il faudrait résoudre par la guerre ? Est-ce que c'est aussi qui la demande, cette guerre ? C'est-à-dire d'où elle vient, d'où vient l'idée qu'il faille mener une guerre ? Ça, c'est important aussi.
Oui, c'est alors à la fois quel est le dommage subi ? Est-ce que le dommage est suffisamment grave pour pouvoir engager une guerre ? Et puis, il faut que ce soit une autorité légitime qui le demande. Donc, c'est une guerre qui serait déclenchée, par exemple, par un groupuscule au sein d'une nation et quelque chose qui est évidemment pas possible. Mais encore une fois, j'insiste, c'est vraiment le dernier recours, cette guerre. C'est pour ça qu'on demande que ce soit une autorité légitime qui la déclenche, qui ait une vraie raison pour laquelle on entre en guerre et qui ait une vraie chance de l'emporter et d'arriver à la paix. Donc, c'est vraiment le dernier recours après beaucoup de discussions qui devraient avoir lieu. Donc, c'est normalement très rare.
Alors, on parlait de la guerre juste, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, et de fait, c'est quelque chose que l'Église a pu défendre pendant plusieurs dizaines d'années, mais sur lesquelles elle est revenue à la faveur, entre guillemets, de cet événement guerrier, de cet événement militaire, c'est l'arrivée de la bombe atomique. Ça a modifié la position, justement, de l'Église. On disait que l'Église n'était pas insensible à ce qui traverse notre époque. Là, c'est typique.
Oui, là c'est typique. Alors, je dois te donner d'abord une toute petite précision. Il y a toujours eu des courants pacifistes dans le christianisme qui n'ont jamais été condamnés en tant que tels, mais qui n'ont jamais non plus été la position officielle de l'Église. Donc voilà, c'est. Mais c'est vrai que dans son dernier texte, sa dernière encyclique, le pape François, donc Fratelli Tutti, en 2020, dit « On ne peut plus aujourd'hui parler de guerre juste comme on le faisait dans la tradition ancienne ». Et entre autres choses, il évoque cette question de la bombe atomique et des armes de destruction massive. Et effectivement, je crois que c'est une évolution absolument capitale qui montre qu'on est passé à une autre réalité. Parce que, on le disait tout à l'heure, dans les principes de guerre juste, il y a l'idée de dire « Je vais infliger à mon ennemi quelque chose qui est proportionnel au dommage que j'ai pu subir. Qu'est-ce qui est proportionnel à une force de destruction telle qu'une bombe atomique ? On le sait, c'est une autre bombe atomique. Et ça ne va pas très longtemps continuer comme ça parce qu'on a la possibilité de détruire l'ensemble de l'humanité si on échange simplement quelques tirs de cette nature. Donc on est devant une puissance de destruction que l'humanité n'avait pas connue avant la moitié du XXe siècle.
Jacques Benoît Rocher, est-ce que l'Église est crédible quand elle écrit sous la plume de Benoît XVI en 2007 dans une déclaration « Pour les chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique, mais bien une manière d'être de la personne, l'attitude de celui qui est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de sa puissance qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité ». Est-ce que c'est entendable ? Est-ce que c'est pas trop idéaliste ?
Alors, je crois que c'est entendable, mais évidemment avec le reste du discours. C'est-à-dire, je crois qu'il y a bien des solutions où il faut se dire, oui, l'évangile n'est pas juste un espèce de conte de fées. Quand le Christ nous dit de ne pas utiliser la violence, il y a des situations où il faut l'appliquer dans notre vie personnelle, mais peut-être aussi dans la vie politique. En même temps, il ne faut pas non plus en faire un principe absolu qui devrait n'être que cette ligne directrice-là. Encore une fois, il y a bien des situations aussi où l'Église a reconnu qu'on pouvait faire usage de la violence, malheureusement, parce que d'autres solutions n'avaient pas pu être envisagées.
Derrière ce thème de la guerre, ce qui vous a intéressé, c'est de vous arrêter aussi sur un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est celui de la dignité humaine qui va être, en fin de compte, en toile de fond de toute cette réflexion sur la guerre.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'encore une fois, si j'accepte que la guerre soit menée, c'est pour défendre une dignité bafouée, hein, par exemple des gens qui se sont fait voler des terres ou qui ont été spoliés dans des droits fondamentaux. Mais évidemment, on le sait malheureusement aujourd'hui, la guerre est souvent une négation encore plus grave de la dignité humaine à travers les méfaits qu'elle fait subir aux populations notamment qui la subissent.
Mais est-ce que vous diriez qu'il y a une limite justement à ça, à la guerre, à la dignité humaine ?
Il n'y a jamais de limite à la dignité humaine, ça c'est clair. Et on le sait, ça le pape François l'a souligné justement dans son encyclique Fratelli Tutti, souvent la guerre suscite des manières de bafouer la dignité humaine qui sont extrêmement graves et qui s'étalent sur plusieurs générations, sur plusieurs années. Moi je sais, j'ai la chance de vivre avec des frères qui viennent de contextes extrêmement différents. Et je sais que les frères qui ont connu la guerre eux-mêmes dans leur propre pays, qui ont grandi dans un contexte de guerre, en restent marqués absolument toute leur vie. Et je crois que ça, on s'en rend heureusement plus trop compte dans notre pays, en France, mais on ne peut pas faire la guerre de façon légère.
Mais qui aujourd'hui peut défendre une guerre légère ? Qui aujourd'hui dirait que ça reste la solution pour faire justice, justement, alors qu'on a désormais des institutions internationales qui existent ? On a des associations aussi qui sont prêtes à justement favoriser ces dialogues. On peut évoquer Saint-Égidio, par exemple, qui est quand même à l'origine de certaines négociations de paix. C'est une association chrétienne. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a encore une défense de la guerre ? Est-ce que c'est une question naïve ?
Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on peut se réjouir quand même qu'on ait énormément d'évolutions, que ce soit ces institutions internationales, ces moyens de pression des organisations non gouvernementales qui existent pour essayer d'éviter la guerre. Mais qu'est-ce qui fait que ça continue ? Malheureusement, c'est que le mal est toujours à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Je vous prends un exemple très concret. Quand Daesh a émergé en Syrie et en Irak, malheureusement, on ne pouvait pas se dire on va négocier avec des gens comme Daesh. Et donc, pour essayer de lutter contre eux, on a dû utiliser des moyens qui étaient des moyens guerriers. Et là, je crois que c'est un des cas dans lequel on peut malheureusement pas faire autrement quand on a affaire à des adversaires comme ça et qui réduisaient en esclavage, voire qui tuaient de façon absolument barbare un certain nombre de personnes sur le territoire qu'ils occupaient. Donc voilà, là, c'était pas faire preuve de naïveté que de dire qu'il fallait utiliser des moyens violents pour lutter contre un ennemi pareil.
Alors, la dignité humaine, elle traverse cette question de la guerre, elle traverse d'autres domaines finalement, et c'est aussi pour cela que c'est l'un des socles en quelque sorte de cette doctrine sociale de l'Église. Est-ce que c'est si simple de dire qu'il y a une dignité humaine comme une évidence transcendantale, ou est-ce qu'au fond, après tout, chacun peut avoir aussi une conception de la dignité humaine ?
Ben je crois que justement, là, c'est quelque chose où le chrétien a une chance d'avoir précisément un fondement un peu transcendant là qui est posé. Non, chaque être humain a une dignité qu'on peut tous reconnaître, quelle que soit notre confession de foi. Mais en plus, le chrétien se dit, cette dignité, le Christ me rappelle qu'il a donné sa vie pour que l'homme garde cette dignité, pour que l'homme ne reprenne pas les chaînes de son ancien esclavage, comme disait saint Paul. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental, et que ce soit sacré pour le chrétien, eh bien, je crois que c'est aussi un très beau critère de discernement, c'est-à-dire se dire il y a certains domaines dans lesquels on ne transige pas, il y a certaines choses sur lesquelles on ne va pas débattre. Moi, j'aime beaucoup la démocratie et le débat démocratique, mais il faut dire aussi, la démocratie, elle peut devenir folle. Si on se mettait d'accord à 98% d'une population pour voter qu'on va aller exterminer une partie de l'humanité, et qu'on était, allez, 99,9% d'accord pour dire qu'on extermine les 0,1% qui restent, ce serait très démocratique. Et bien pourtant, ce serait contraire à la dignité humaine. Et donc ça, je pense que d'avoir un principe transcendant qui nous dit la dignité humaine est quelque chose auquel on ne touche pas, c'est au contraire quelque chose qui maintient la grammaire de notre démocratie, et c'est quelque chose que l'Église doit être fière de pouvoir défendre.
La doctrine sociale de l'Église est une réflexion chrétienne qui concerne aussi ce que nous faisons de notre argent. Et donc, mais quel attachement nous avons à la vie matérielle ? Est-ce que notre foi en la résurrection peut changer justement ce rapport à l'argent ? Frère Jacques Benoît Rauscher, vous vous arrêtez sur cette réflexion de Saint-Justin sur ce que l'espérance en la vie éternelle peut justement provoquer dans notre relation au bien matériel. Est-ce que l'argent détourne de Dieu ? Au fond, c'est ça la question qui est posée.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça m'a frappé en travaillant cette question et en allant voir les premiers textes chrétiens, de voir que c'était une question centrale pour les chrétiens, ça, de se dire au fond, comment est-ce que le christianisme, comment est-ce que le fait que j'embrasse la foi chrétienne change mon rapport au bien matériel et notamment à l'argent. Et je me suis dit, ben, au fond, si à une sortie de messe, je faisais un petit micro-trottoir comme ça et que je demande aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui vous distingue des autres hommes comme chrétiens? Je suis sûr qu'ils ne me répondraient pas en évoquant les biens matériels ou leur rapport à l'argent. Ils évoqueraient sans doute le rapport aux autres, la vie familiale,
l'éthique,
le pardon, peut-être la spiritualité, mais pas l'argent. Et je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose qu'on devrait redécouvrir. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens disaient que c'était si important pour eux que ce rapport aux biens matériels était changé par le fait qu'ils adoptent la foi chrétienne?
Vous voulez dire que ça nous arrange bien de ne pas trop regarder cette question de près, parce que après tout, quand on a cet argent, c'est qu'on l'a gagné, c'est qu'on a travaillé, c'est qu'on l'a reçu peut-être de parents qui avaient eux-mêmes beaucoup travaillé. Donc, au fond, est-ce que c'est chasser le caractère légitime, après tout, de cet argent reçu, ou c'est ne pas vouloir être dérangé par l'idée qu'il faudrait partager, donc se priver, en quelque sorte?
Oui, je pense peut-être aussi qu'on est baigné dans un contexte intellectuel qui se dit que ce qui compte avec l'argent, c'est de bien le gérer, et puis que c'est pas une question si morale que ça, finalement. Or, je crois que notre rapport à l'argent, au bien matériel, dit quelque chose aussi de notre rapport à Dieu, et au fond de notre vie spirituelle, même de notre vie de prière, dans un sens.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, je crois qu'on peut parfois même avoir une vie de prière, une vie même sacramentelle qui consiste à accumuler, qui consiste à faire un peu du marchandage avec Dieu, hein, du type « je t'ai quand même donné un pèlerinage à Lourdes, je t'ai donné une nuit d'adoration, donc t'aurais un peu intérêt à me donner ça hein, ». Ou bien au contraire, j'ai donné tant de temps pour ma paroisse, donc du coup le bon Dieu d'une façon ou d'une autre va me le rétribuer. J'ai envie de maximiser par exemple ma vie spirituelle en devenant dominicain par exemple. Vous voyez, une manière de réfléchir qui va être sur un calcul coût-avantage et peut-être quelque chose qui est moins dans l'ordre de cette gratuité qui devrait aussi caractériser notre relation avec Dieu qui se définit d'abord comme une relation d'amitié. Et l'amitié, c'est par définition gratuit.
Alors ça suppose de penser aussi notre attachement aux autres et à nos biens différemment, c'est difficile.
Effectivement, c'est difficile, mais ça dit quelque chose de fondamental sur la façon dont au quotidien, en fait, on pense notre attachement au Christ et dont on prend au sérieux aussi les promesses de la vie éternelle. Pour les premiers chrétiens, c'était quelque chose de très important, ça, de dire « j'ai pas besoin d'accumuler de façon démentielle, parce que de toute façon, ma cité, elle se trouve dans les cieux ». Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être encore une fois complètement inconséquent et se dire « Jésus va pourvoir au bien de ma famille et j'ai pas besoin d'acheter une maison ou j'ai pas besoin de remplir mon frigo ».
Oui, parce qu'on voit bien que Saint Paul, il ne veut pas dépendre justement là. Lui aussi, il est quelque part attaché à son indépendance, si on peut dire ça comme ça avec des mots d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc encore une fois, c'est pas un appel à l'inconséquence, mais c'est un appel à prendre au sérieux la question « qu'est-ce qui change dans ma manière de consommer, qu'est-ce qui change dans ma manière de posséder depuis que je suis chrétien ?» Ou par le fait que je sois chrétien, est-ce que je me comporte différemment dans ma manière d'acheter, dans ma manière de produire, par rapport aux gens qui m'entourent?
Mais derrière, on entend aussi la question du mérite. Je l'ai mérité, cet argent. Je l'ai mérité, cet amour de Dieu.
Oui, alors ça, c'est pas faux que quand on travaille, on a droit de recevoir un salaire, on l'a mérité. Mais en même temps, on doit toujours se dire que l'on est gestionnaire des choses de ce monde et de ce monde qui passe. Et ça, c'est une dynamique à l'égard des biens de ce monde que les chrétiens ont toujours tenu. C'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Saint Ambroise de Milan, par exemple, il disait de façon très ferme, « Quand tu donnes ton argent au pauvre, tu ne lui donnes pas quelque chose qui t'appartient. Tu lui rends quelque chose qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas en raison d'un système injuste. » Et je trouve que ça change complètement la manière de pratiquer, par exemple, l'aumône. Ça consiste pas à dire « moi j'ai » et du haut de ma possession, je vais faire tomber quelques miettes auprès du pauvre qui se situe à mes pieds, mais je rétablis une injustice qui ne devrait pas exister au sein de l'humanité.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Jacques-Benoît Rocher, vous citez dans votre livre Saint Thomas d'Aquin qui va jusqu'à considérer qu'un pauvre en cas d'extrême nécessité peut prendre les biens d'un plus riche. Ce n'est pas un péché, mais c'est un vol qui répare une situation d'injustice.
Oui. C'est curieux. C'est très très fort comme parole. Mais pour vous dire qu'elle n'est pas du tout hors d'actualité, le pape Jean-Paul II l'a exactement réutilisée quand il était en Amérique du Sud, en disant dans un contexte de grave inégalité, Le vol n'est pas un péché. Enfin, en tout cas, le fait de dérober le bien qui appartient à un autre n'est pas un péché pour faire face à une grave nécessité. Il ne s'agit pas évidemment de dire, je ne sais pas, moi j'ai besoin d'un nouveau téléphone, donc je vais aller le prendre dans le sac de mon voisin dans le métro.
C'est au pas fond, ça. C'est rétablir soi-même la justice aussi, avec les limites que ça a.
C'est dire tout simplement que la vie humaine, et donc quand elle est menacée par exemple par quelqu'un qui a faim, la vie humaine est plus importante que la défense de la propriété. Donc, s'il y a des fruits à l'étal d'un marchand et qu'une personne meurt véritablement de faim, il n'est pas tout à fait dans la situation d'un vol s'il dérobait cela sans payer. Et voilà, il ne faut pas en faire non plus un principe de vie sociale. C'est des situations d'urgence, mais qui disent quelque chose néanmoins de la manière dont on se situe par rapport à la propriété et du coup par rapport au bien matériel.
Oui, parce que frère Jacques-Benoît Rochère, dans la doctrine sociale de l'Église, ce qui est interrogé, c'est la possession aussi. C'est-à-dire, c'est pas tant de ne pas autoriser de posséder quelque chose. Au contraire, l'Église, encore une fois, redit bien que la propriété privée est un espace de liberté. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette possession ?
Oui, qu'est-ce que je fais de cette propriété ? Comment je la mets au service des autres ? Est-ce que je fais au fond de cette propriété quelque chose qui vient simplement satisfaire mon ego, et notamment ma volonté peut-être de me mettre à la place de Dieu en disant j'ai tellement de choses que je ne risque plus rien, je risque pas de coup du sort, les biens matériels quelque part me sécurisent à un point où je me dis j'ai pas besoin de Dieu, j'ai plus besoin des autres. Et ça, c'est quand même un risque qui est pointé par la Bible chez celui qui possède, cette volonté de toujours posséder plus pour à la fin peut-être se mettre à la place de Dieu.
Comment, à l'inverse, l'Église a réagi face au communisme qui proposait, on a vu que dans la réalité c'était pas si évident, mais en tout cas qui avait comme idée qu'on devait tout partager, avoir des lieux d'espace communs, beaucoup de choses communes. Comment l'Église a réagi par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a vu l'accomplissement des premiers textes des Actes des Apôtres ?
Alors absolument pas. Elle a toujours été assez contre, totalement contre le communisme, mais aussi contre le libéralisme. Et ça, c'est moins connu. Vraiment, le pape Paul VI se situe dans une perspective où il dit les deux réponses sont des mauvaises réponses. Le communisme, en voulant faire en sorte que l'ensemble de la collectivité finalement possède et qu'il n'y ait pas de propriété privée. Et puis le libéralisme, en mettant tellement l'accent sur la propriété privée qu'on en oublie la destination universelle de ces biens et la nécessité de se préoccuper du fait que l'autre puisse avoir accès à ces biens.
Au-delà de l'idéologie, qu'est-ce qui gênait l'Église dans le communisme, dans ce partage de biens ? Au fond, cette égalité à tout prix, ça heurtait.
Voilà, c'est déjà le fait que, effectivement, un grand principe dans la pensée de l'Église, c'est de dire à chacun selon ses besoins, et les besoins ne sont pas les mêmes pour chacun. Et puis que la propriété, encore une fois, en elle-même n'est pas mauvaise. La propriété, elle peut être bonne, elle est même bonne pour une meilleure gestion des biens de ce monde.
Sous-entendu, si tout le monde possède, personne ne possède.
Voilà.
Personne ne prend soin.
Personne ne prend soin si tout le monde possède de façon indifférenciée. Je peux vous dire, je vis en communauté, on a des biens qu'on possède, par exemple des voitures.
Vous êtes dominicain.
Je suis dominicain et je peux vous dire, s'il n'y avait pas un responsable de la voiture, je suis sûr qu'elle ne serait pas toujours très propre ou qu'il n'y aurait pas toujours de l'essence dans le réservoir quand on veut la prendre. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui organise en fait cette propriété, sinon c'est l'anarchie. Et c'est ça que l'Église pointe directement dans sa condamnation du communisme, au-delà du fait que c'est en plus une idéologie athée avec laquelle elle ne pouvait pas être d'accord. Mais sur cette question de la propriété, il y a ce côté finalement peu réaliste dans le rapport à la propriété et dans le fait que, au fond, on s'investit mieux quand on a la propriété d'un bien. Mais qui dit propriété dit plutôt pour l'Église, je suis gestionnaire de ce bien lors de mon passage sur cette terre. Mais je ne peux jamais totalement m'en dire propriétaire au sens où je le possède sans penser aux autres. Voilà.
Alors comment est-ce qu'on peut justement arriver à considérer que ces biens, je les possède le temps de mon passage sur Terre, puisqu'il y a une vie après ?
Alors déjà, je crois que c'est de poser la question toujours du nécessaire. Et c'est une question qu'on ne se pose pas beaucoup, je trouve, aujourd'hui. On est beaucoup dans une logique d'accumulation. Mais on se demande finalement pas toujours, est-ce que c'est nécessaire ? Alors quand je dis nécessaire, je ne parle pas seulement de la nécessité biologique. Ça peut être nécessaire pour une famille d'avoir une belle maison ou de partir en vacances. C'est pas ça. Mais dans quelle mesure est-ce qu'à un moment donné, je me pose et je me dis, est-ce que j'ai besoin de ce que je vais acheter ? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire grandir en humanité ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet de vie plus général et pas simplement dans une espèce de satisfaction de me dire, je sais pas, moi j'ai le dernier ordinateur à la mode ou la dernière paire de baskets que je trouve super chouette. Enfin voilà, Comment est-ce que ça s'inscrit dans qui je suis de façon plus générale et évidemment dans ma relation à Dieu?
Voilà, justement, la relation à Dieu, est-ce que véritablement elle peut prendre plus de place auprès de ceux qui n'ont rien, j'ai envie de dire? En quoi la possession pourrait nous gêner dans l'accès à Dieu?
Eh bien, parce que ça, c'est quelque chose qui est alors très présent dans la Bible quand on l'ouvre, c'est de se rendre compte au fond que la possession de l'argent, mais même des biens matériels, peut être une idole concurrente à Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il y a une forme de soif qui se crée dans celui qui possède, qui a toujours envie de posséder plus, et plus, et plus, et plus. Et du coup, son esprit peut être complètement perturbé par cette volonté de posséder toujours plus, et du coup, il se détourne de ce qui est véritablement important, c'est-à-dire la recherche de Dieu. Mais en même temps, la Bible, elle est pragmatique. Elle dit « celui qui n'a rien, il est préoccupé aussi par le fait qu'il ne possède rien ». Donc elle dit, ben voilà, il faut toujours trouver un bon équilibre dans ce rapport au bien matériel, ne pas être obsédé parce qu'on n'a rien et ne pas non plus être obsédé par une accumulation sans fin qui ferait qu'à un moment donné, on se détourne de ce qui en vaut la peine.
Jacques-Benoît Recherve, l'un des thèmes que vous abordez, c'est celui des migrants, celui de l'étranger. Thème objet de beaucoup de crispation, d'incompréhension aussi, et puis peut-être de contradiction au sein même des chrétiens. On a du mal à y voir clair sur ce thème.
Oui, alors ça, je dois dire que j'en ai fait l'expérience, moi, plusieurs fois, parce qu'il m'arrive de donner des conférences à droite à gauche sur les questions de la doctrine sociale de l'Église. Et alors, quand j'aborde la question des migrants, je vois dans toutes les assemblées les chrétiens se diviser. Et ça, c'est très intéressant à constater. Ce qui est encore mieux, c'est quand ils arrivent malgré tout à discuter, mais parfois c'est tellement tendu qu'ils restent figés sur leur position. Donc c'est une question qui est compliquée. Oui.
L'objet de la division, qu'est-ce que c'est ?
En gros, hein, pour faire vite, c'est d'un côté ceux qui vont dire « si vous ne voulez pas accueillir les migrants, c'est que vous ne comprenez rien à l'évangile » où le Christ nous dit « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Et puis en face, ceux qui disent « vous êtes idéaliste et irréaliste, si vous accueillez trop les migrants, le christianisme va disparaître, notamment en France ».
Oui, alors vous soulignez ce point-là parce qu'il est présent dans la doctrine sociale de l'Église aussi, de dire que cette tension-là que vous évoquez, elle existe. L'étranger, oui, mais l'étranger arrive avec sa civilisation, sa religion, c'est présent dans l'Ancien Testament, et si ça crée une instabilité, alors il faut se reposer la question de l'étranger.
Oui, exactement, et je trouve que c'est là où on voit que la tradition chrétienne, c'est pas du prêt-à-penser. Moi, j'identifie dans la Bible un peu quatre grandes figures de l'étranger. L'étranger pauvre qui est dans une situation de dramatique, qui est toujours à accueillir, d'après la Bible. Mais il y a aussi l'étranger qu'on appelle l'étranger menaçant, parce que la Bible dit bien, oui, ça peut déstabiliser une société, ça peut même déstabiliser la foi de personnes d'accueillir des étrangers qui viendraient avec une culture différente, avec une foi différente, et il ne faut pas le mettre sous le boisseau, cette question. Mais elle nous dit aussi, l'étranger, il vient enrichir ma culture, voire il vient m'ouvrir vers Dieu. C'est les troisième et quatrième catégories que je vois dans la Bible, l'étranger riche et l'étranger icône.
Donc, là, c'est quel personnage ? L'étranger riche ?
L'étranger riche, alors ça, c'est plutôt, par exemple, la reine de Saba, hein, qui vient s'instruire de la sagesse de Salomon. Mais aussi, on nous dit dans la Bible que, il faut être très ouvert aux cultures, notamment à la culture grecque, pour les Hébreux, qui peuvent leur dire des choses extrêmement intéressantes sur la philosophie. C'est dans les premiers siècles du christianisme, un saint Grégoire qui dit, il faut que les chrétiens s'ouvrent à la culture païenne, parce qu'il y a dedans des choses extrêmement intéressantes qui leur aideront à développer leur réflexion. Donc voilà, l'étranger riche, c'est celui qui, n'appartenant pas au peuple de Dieu, vient quand même me dire quelque chose qui est bon pour ma culture et pour ma vie spirituelle.
Alors c'est vrai que cette citation du verset de l'évangile selon saint Matthieu, on l'entend beaucoup. J'étais pauvre et vous m'avez accueilli. J'avais faim et vous m'avez nourri. Est-ce que vous diriez qu'il y a un usage mal compris de cette phrase ? Pourtant, elle est claire.
Je dirais pas un usage mal compris, parce que comme vous dites, elle est claire et elle implique un comportement clair. Quand l'étranger se présente à notre porte et nous demande de l'aide, quand il est dans une situation de détresse, on ne peut pas transiger avec la question de l'accueillir. Si on a affaire à des étrangers qui sont entre la vie et la mort pour des raisons humanitaires, pour des raisons politiques, il n'y a pas à débattre. Le chrétien doit l'accueillir, ça c'est clair. En revanche, dans toute une série d'autres questions sur, par exemple, l'accueil de personnes qui viendraient travailler, l'accueil de personnes qui viendraient s'installer sans forcément être dans des situations de grave péril, on peut débattre, on peut discuter sans être nécessairement des nationalistes fermés.
Vous diriez qu'aujourd'hui, justement, le débat, il s'est durci là-dessus. Comment se terminent vos soirées où vous intervenez avec une telle division dans l'Assemblée? Est-ce qu'on a quand même une aspiration commune aussi, on pourrait dire, pourquoi les chrétiens ne se mettent pas d'accord sur cette question?
Alors, ça se termine généralement bien si on arrive à se rappeler justement de ces différentes figures que j'ai évoquées, c'est-à-dire si on arrive à regarder que dans la Bible et la tradition chrétienne, on a pensé en fait cette pluralité et qu'on a le droit de discuter en dehors encore une fois des cas de grave nécessité, de la pertinence ou non d'accueillir un étranger. Je crois que ce qui ne va pas, ce sont ces espèces d'injonctions au nom de l'évangile de type « il faut accueillir tout le monde parce que le Christ s'identifie à l'étranger ». Ça, c'est une interprétation facile et qui est dangereuse aussi parce que je crois s'abriter autour d'un verset pour directement dicter un comportement politique, c'est pas quelque chose qui est digne du chrétien.
Ce avec quoi vous êtes prudent, c'est l'interprétation littérale des versets de la Bible au final.
C'est l'interprétation littérale, d'une part, et d'autre part, c'est la volonté de dire qu'un verset biblique doit dicter immédiatement mon comportement pour aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quelque chose que le chrétien ne peut jamais faire. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que sinon, on est dans une perspective qu'on appellerait théocratique, c'est-à-dire de dire, à partir de la Bible, à partir de l'Évangile, je vais avoir immédiatement un mode de comportement politique qui va être dicté. Et ça, le chrétien ne peut jamais rentrer dans cette logique-là, parce que le Christ nous le dit bien, il y a un domaine qui appartient à César et un domaine qui appartient à Dieu. Le domaine du politique, c'est le domaine qui appartient à César. Le domaine qui appartient à Dieu, il vient m'inspirer dans mon comportement, mais il ne doit jamais être un décalque immédiatement de mon comportement politique.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Jacques-Benoît Rocher, puisque vous parlez de la politique, j'en viens presque au vote. Comment est-ce qu'on peut se retrouver parmi les propositions des candidats sur à la fois un droit qui dit aussi des choses, l'accueil, celui auquel on est appelé, mais aussi une certaine réalité, un certain réalisme aussi?
Alors d'abord, je le répète, j'enfonce le clou, mais je crois que c'est très important. Un chrétien ne peut pas se fermer à un étranger qui serait en situation de grave nécessité, que ce soit humanitaire parce qu'il est sur un radeau en Méditerranée, ou un réfugié politique, par exemple. Ça, je crois qu'il n'y a pas à transiger là-dessus. Un chrétien ne peut pas non plus adopter un comportement qui serait celui d'un nationalisme de fermeture, qui consisterait à dire « ma culture française, italienne, belge, enfin tout ce qu'on veut, ma culture est supérieure aux autres ». Et à ce titre-là, je dois me fermer complètement à toute influence extérieure. J'ai souvent envie de dire, heureusement, que dans l'Empire romain, les gens ne se sont pas comportés comme ça, sinon on n'aurait pas eu l'Évangile en France, puisqu'il nous vient justement de cultures qui n'étaient pas la culture à l'époque dominante sur notre territoire national. Donc non, un chrétien ne peut pas être dans un nationalisme de fermeture. En revanche, oui, un chrétien peut dire à un moment donné, accueillir trop largement des personnes qui viendraient de cultures différentes risque de déstabiliser l'état dans lequel je vis, risque de déstabiliser la possibilité de réfléchir au bien qu'on a envie de construire ensemble. Et là, peut-être qu'on peut s'interroger, mais pas dans une perspective qui se fermerait à des personnes en grave nécessité ou qui serait dans une perspective de nationalisme de fermeture, c'est-à-dire de glorification d'une culture particulière.
Donc tout le discernement va être sur aussi l'origine de ces personnes, sur ce qu'elles viennent chercher.
Oui, et puis je dirais, puisque vous me posiez la question de façon claire sur aussi les programmes politiques, dans quelle philosophie politique ça s'inscrit de façon générale. Parce qu'il ne s'agit jamais de prendre une proposition d'un parti sortie d'un contexte plus général. Si un parti prône, par exemple, complètement la fermeture à l'autre, là, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être un signal d'alerte pour le chrétien.
Vous voulez dire que ce qu'on retrouverait, par exemple, au niveau des frontières ou au niveau de la sécurité, on le retrouverait en culture, on le retrouverait dans d'autres domaines? C'est l'idée de la fermeture qui pose problème?
Oui, c'est l'idée d'une fermeture, d'imaginer qu'une culture pourrait être complètement fermée à l'influence des autres, qu'elle n'aurait rien à gagner à s'ouvrir aux autres. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui est dangereux. En revanche, encore une fois, dire peut-être qu'il y a une nécessité de temps en temps de refonder un petit peu le socle national, le pacte qui nous unit, le bien qu'on cherche ensemble, là pourquoi pas, hein. Mais si c'est dans une perspective globale de fermeture, dans une philosophie qui veut être fermée à l'autre, là le chrétien peut pas y trouver son compte.
Frère Jacques-Benoît Raucher, qu'est-ce que vous faites du principe de solidarité qui sous-tend cette réflexion?
Le principe de solidarité, il est essentiel pour le chrétien. La solidarité, c'est faire en sorte que je reconnais que l'autre, il est membre, il partage la même humanité que moi, et il partage le même corps du Christ qui sera l'humanité réconciliée à la fin des temps. Donc je ne peux pas être indifférent à ce que vit l'autre, que ce soit à côté de chez moi ou que ce soit à l'autre bout du monde. Et ça, je crois que c'est très important de se le dire comme chrétien. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et on est appelé à partager le même royaume à la fin des temps. Donc si je vois en l'autre à la fois quelqu'un qui a été comme moi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et si j'y vois finalement mon concitoyen dans cette cité des cieux vers laquelle on tend tous, ben je le vois finalement différemment que quelqu'un qui vient m'embêter parce qu'il vient me demander son aide aujourd'hui.
Frère Jacques-Benoît Raucher, qu'est-ce que vous faites de l'idée que Dieu a créé la terre sans frontières? C'est encore tenable cette phrase?
Alors c'est une phrase qui a été beaucoup développée par des penseurs chrétiens, alors notamment au XVIe siècle, mais elle a été reprise encore par le pape Jean XXIII il n'y a pas longtemps, en disant au fond, ce qui prime avant les frontières nationales, c'est l'appartenance à une famille humaine. Et pour le chrétien, c'est quelque chose qui doit être toujours au-dessus de l'appartenance nationale. Après, il ne faut pas non plus être romantique à l'excès. C'est vrai qu'on peut avoir plus de soins pour les gens qui appartiennent à son propre pays, qui appartiennent à sa propre famille. Et c'est pas grave non plus qu'un chrétien se préoccupe d'abord de ces personnes-là, mais si elle s'en préoccupe au point d'en être fermée à l'ensemble de l'humanité, il y a quelque chose qui est plus chrétien là-dedans. C'est finalement mettre de l'ordre dans la manière dont on exerce l'amour pour le prochain. Évidemment, on se préoccupe d'abord de ses enfants, de sa famille, de ses concitoyens, mais si cette préoccupation nous conduit à nous fermer aux autres, ben voilà, il y a quelque chose du message chrétien qu'on n'a pas pleinement reçu.
Jacques-Benoît Raucher, vous vous intéressez à la doctrine sociale de l'Église pour essayer de comprendre ce qui traverse notre monde contemporain et notamment la question de la politique, du chrétien qui s'engage en politique ou qui s'engage ailleurs justement. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même implication? Et est-ce que ce seront les mêmes effets quand ce n'est pas dans un parti politique? En tout cas, est-ce que la politique ne détourne pas le chrétien d'un but qui serait plus haut? C'est la question que vous posez. Alors, la place de la politique pour un chrétien, c'est quoi?
Ce qui est bien, c'est que la réponse est claire là. Non, la politique ne détourne pas le chrétien de ses engagements, au contraire. Le chrétien ne peut pas se désintéresser de la vie de la cité, de la vie de ceux et celles qui l'entourent. Et le pape Pie XI avait même cette belle expression, il disait que pour le chrétien, la politique, c'est l'expression la plus élevée de la charité. Le service de la politique est l'expression le plus élevée de la charité. Pourquoi? Eh bien, parce que la politique permet de toucher le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de citoyens, et donc s'intéresser à la politique permet de faire du bien potentiellement au plus grand nombre. Donc,
mais est-ce que c'est une réalité?
Alors, en tout cas, c'est sa vocation à la politique et c'est ce qu'elle permet de faire. Donc, c'est quelque chose qui est beau et c'est une réalité vers laquelle elle doit tendre, on l'espère.
On entend aussi que, après tout, ce monde va vraiment de plus en plus mal. À quoi bon s'y engager? Et il y a une véritable déception face à ça. Vous dites que non, au contraire, faut y aller.
Il faut y aller. D'ailleurs, c'est le pape François qui le dit. Peut-être si ce monde va de plus en plus mal, si le monde politique a l'air d'être corrompu et que le chrétien n'a pas envie de s'y engager, il devrait peut-être se demander s'il est corrompu, c'est peut-être parce que les chrétiens n'y sont pas assez engagés. Donc on peut renverser l'argumentaire et se dire, au fond, c'est une invitation à y aller, justement.
Est-ce que vous soutenez qu'il y a un véritable pouvoir de la politique et que passer cet élan de vouloir changer les choses, changer le monde, il y a encore véritablement des lieux où c'est possible parce qu'on a une véritable envie de voir de belles choses, de pouvoir les réaliser?
Ben, je crois que oui, et je crois que c'est même une expérience spirituelle forte que le chrétien peut faire quand il s'engage en politique ou quand il réfléchit à la question politique. Hein, s'engager en politique, c'est pas forcément militer dans un parti seulement.
Alors justement, qu'est-ce que ça peut être ?
Alors, d'abord, le fait de s'engager de façon générale, ça veut dire tout simplement se préoccuper de la vie de ses concitoyens. Donc ça peut commencer par aller voter, hein, c'est quand même quelque chose déjà d'important. Ça peut être actif dans une association, être préoccupé, on va dire, du bien de ses concitoyens en menant une action ponctuelle ou plus large, on va dire, dans sa commune, dans sa région, dans son pays. Et puis ça peut être effectivement militer dans un parti politique ou une organisation syndicale.
Est-ce que le fait d'arriver dans des structures déjà établies, c'est pas trahir aussi un idéal qu'on pourrait avoir ?
Oui, alors, moi je crois que le chrétien, il ne devrait pas fonctionner uniquement à l'idéal. Un chrétien, il a bien un idéal, mais c'est un idéal qu'il doit toujours incarner dans sa vie quotidienne et dans celle des autres. Et attention aux chrétiens qui ne voudraient se diriger, c'est vrai pour la vie politique, mais la vie en général, qui ne voudraient se diriger qu'avec un idéal. Au fond, le chrétien, il doit prendre en considération qui il est, sa capacité d'avancer aujourd'hui et d'avancer avec les autres. Moi, il y a une analogie que j'aime bien prendre, c'est celle du guide de montagne. Le guide de montagne qui ne vous montre qu'un sommet et qui vous dit « débrouille-toi pour l'atteindre », il fait pas son boulot. Le chrétien, c'est un peu pour ses concitoyens un guide de montagne. Il doit indiquer le sommet, il doit indiquer l'idéal, mais il doit aussi accompagner le chemin vers l'idéal, en prenant en compte le fait que ceux qui l'accompagnent sont peut-être pas en super forme, que la météo est peut-être pas optimale. Et il doit tenir compte de tout ça pour atteindre le sommet. Mais il doit pas se contenter de dire « regarde le sommet et débrouille-toi pour y aller ». Et parfois, on s'arrête à ce niveau-là, hein, en disant « ah ben l'évangile nous dit ça, ou les papes nous disent ça, ça c'est le sommet, vas-y ». Donc, comment est-ce que concrètement je vais accompagner mes concitoyens dans les situations parfois poussiéreuses et pas très propres dans lesquelles ils sont pour, à la fin, atteindre cet idéal ?
On a un discours un peu prégnant, un peu dans l'air du temps, de dire l'Église a besoin de forces vives, l'Église a besoin de ces fameux ouvriers pour la moisson. Comment vous l'entendez, ce discours ?
Ben, je crois que l'Église, ce dont elle a besoin, et parce que c'est sa mission, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent l'Évangile, hein, qui annoncent le message du Christ. Mais annoncer le message du Christ, c'est pas seulement travailler dans des structures d'Église, même pas du tout. C'est aussi être présent en entreprise, être présent dans la vie politique. Et le pape Jean-Paul II mettait un peu en garde les chrétiens et aussi les responsables d'Église contre ce genre d'attitude, en disant « attention, si les chrétiens les plus engagés ne travaillent que dans des structures d'Église, on perd aussi une possibilité d'être au contact avec le monde et de porter un témoignage dans le monde politique, dans le monde économique. Donc attention de ne pas faire venir les chrétiens trop dans les structures d'Église au point de les empêcher de s'engager dans le monde. »
Mais alors, comment garder sa foi aussi dans des lieux qui lui sont hostiles ?
Ben, je crois que c'est toujours évidemment une question d'équilibre. Hein. Je dis pas qu'il faut quitter sa paroisse et ses groupes de prière pour aller uniquement s'engager dans le monde. Hein. Mais c'est trouver quand même cet équilibre de se dire à un moment donné, comment est-ce que je suis évidemment nourri par ma vie chrétienne quotidienne, par ma pratique dominicale, par peut-être mon engagement dans un groupe de prière ou dans un groupe de réflexion chrétienne. Mais en même temps, comment est-ce que j'assume ma mission propre dans le monde qui peut passer par une mission politique ? Et il faut faire attention que l'Église ne devienne pas, voyez, une petite secte, hein, au fond, où on travaille finalement tous un peu entre nous, où on partage les mêmes références, mais où on ne se coltine pas non plus un travail compliqué de traduction de ces références auprès des autres, et puis peut-être aussi de recevoir des questions qui sont des bonnes questions qui nous permettent de bouger nous-mêmes.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Alors si on parle de l'engagement politique, c'est parce qu'on est toute cette semaine au cœur de la doctrine sociale de l'Église qui cherche à voir comment s'engager en quelque sorte. Et vous évoquez dans votre livre un terme qu'on n'entend plus beaucoup, les structures de péché.
Alors les structures de péché, c'est un terme qui a été introduit notamment en Amérique latine par des théologiens, mais qui a été repris par le pape Jean-Paul II dans les années 80, et qui consiste à dire, au fond, les structures sociales, les structures économiques dans lesquelles on est, elles peuvent nous pousser à faire le bien ou à faire le mal. C'est pas neutre de vivre dans une structure politique ou une structure économique donnée. On est conditionné par les structures sociales dans lesquelles on se trouve.
Donc là-dessus, on n'a pas de pouvoir d'action, en quelque sorte.
Alors Jean-Paul II insiste beaucoup là-dessus. Il dit, attention, il ne faut pas non plus mettre toute la faute sur la structure. On a toujours une petite marge de liberté, qui qu'on soit, dans quelle que soit la structure dans laquelle on vit. Mais en même temps, ces structures, elles nous forment.
Hein, mais donnez-nous un exemple.
Un exemple, on pourrait dire, un petit peu clair. Aujourd'hui, on va dire, on vit dans un monde où on utilise beaucoup de téléphones portables. Je suis obligé d'acquérir un téléphone portable pour vivre dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Les téléphones portables, ils sont fabriqués parfois dans des conditions qui sont pas toujours des conditions qui respectent la dignité des personnes qui les fabriquent. Je peux dire que c'est une forme de structure de péché, c'est-à-dire que je suis obligé d'acquérir un objet qui a été produit de façon dont je sais qu'elles ne sont pas tout à fait respectueuses. Et je vais essayer de faire changer cette réalité, mais en même temps, j'y suis quelque part lié d'une manière.
On est embarqué.
J'y suis embarqué et je peux pas faire autrement.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors,
nous dit la doctrine sociale de l'Église ?
Il y a toute une gamme de possibles là-dedans, mais d'abord, elle nous aide à dire. Je suis obligé de constater que c'est comme ça et que je ne peux pas faire autrement.
On identifie déjà.
On identifie, on nomme et on se dit, il y a des marges de manœuvre, mais il y a aussi une nécessité de ne pas non plus rêver à se dire, voilà, je pourrais aller revivre dans une caverne et faire en sorte que je sois complètement à l'extérieur de ce monde qui m'embarque avec ces technologies. Non, il y a quelque chose dans lequel je suis embarqué et je vais jouer avec cette réalité au sens positif du terme. Par exemple, ça peut être faire pression sur les fabricants de téléphones. Ça peut être aller voir mon député et lui dire comment est-ce qu'on pourrait, du point de vue législatif, faire évoluer les choses. Ça peut être adhérer à une association de consommateurs.
Mais garder son portable un peu plus longtemps.
Garder son portable un peu plus longtemps. Peut-être choisir certaines marques au détriment d'autres. Voilà, donc avoir une réflexion. Mais la structure de péché, elle consiste à ne pas être dans le côté, vous voyez, romantique qui consisterait à dire « Ah ben non, je n'en achète pas parce que c'est mal et du coup, je veux pas me salir les mains », ni dans l'attitude qui consisterait à dire « Bah, de toute façon, tout le monde fait comme ça et je dois m'accommoder à ce que fait tout le monde ».
Au fond, ce qui ressort de votre livre, frère Jacques-Benoît Rauscher, c'est la responsabilité qui est donnée à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et évidemment, dans cette période qui est cruciale, celle du vote et celle des élections législatives, à quoi vous appelez les auditeurs ?
Alors déjà, je crois à ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais à se réjouir. Je ne parle pas de se réjouir du fait qu'on aille voter parce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec l'idée de la dissolution, mais avec le fait même de se rendre compte que d'aller voter, c'est quand même un cadeau énorme qui est donné à nos concitoyens et un cadeau dont les chrétiens doivent savoir se réjouir. Je vous le dis aussi franchement, moi je vis avec des frères qui viennent dans ma communauté dominicaine de contextes extrêmement différents et de vivre en démocratie, c'est quand même une grande chance qu'on ne mesure plus toujours, je trouve, parce qu'on y est trop habitué en France. Donc aller voter, c'est toujours une fête, même si on n'était pas d'accord avec la dissolution, c'est pas la question. Mais aller voter, c'est quelque chose de très positif. Donc premier élément, se réjouir parce qu'on a part au débat démocratique. Et ensuite se dire effectivement que la manière dont je vais voter implique ma vie chrétienne, oui c'est vrai. Et donc, il faut revenir sur les principes et sur l'analyse qu'on fait aujourd'hui de la situation de notre pays. Pas seulement les principes et l'analyse de la situation de notre pays. Quelqu'un disait, un vieux prêtre que je connaissais avait cette image que je trouve belle, il disait d'un côté l'évangile, de l'autre le journal. Et c'est comme ça qu'un chrétien, il vote. Avec la doctrine sociale, je dirais, inspirée de l'évangile, et avec le journal, c'est-à-dire avec la manière dont il perçoit aussi le pouls du pays dans lequel il est.
Vous écoutant, on entend aussi qu'un programme, ça s'étudie, ça se regarde. C'est ça la responsabilité aussi, peut-être, du chrétien, avec l'évangile à côté, mais en tout cas de s'y plonger dans les programmes.
Ah oui, tout à fait.
C'est une exigence.
C'est une exigence, et ça n'a rien à voir avec le niveau d'études qu'on a pu faire ou quoi que ce soit. Je crois que chacun, à notre niveau, on a une vraie exigence à avoir de prendre au sérieux la parole de l'autre. Même s'il n'appartient peut-être pas à un parti pour lequel j'ai envie de voter, mais prendre le temps d'écouter ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que je lui donnerai mon suffrage, mais au moins de me laisser atteindre par la parole d'un candidat, par exemple, pour essayer de voir comment je me positionne par rapport à lui.
Prendre au sérieux les élections. Merci beaucoup, frère Benoît Jacques Rauscher. Vous êtes l'auteur du livre « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter ». C'est pertinent, c'est aux éditions du CERF. C'est une bonne lecture pour cette semaine. Merci à vous.
Merci beaucoup.